Chapitre 3. Maintenant qu'elle se trouvait devant la porte en bois imposante, Megumi se demandait si elle n'était pas en train de faire une énorme erreur, sans parler de ses parents qui risquaient de s'inquiéter. Elle aspira une grande bouffée d'air et tourna la poignée. Megumi se serait attendu à un grincement, mais à la place, ce ne fut que le bruit du bois raclant le perron. Elle ne vit tout d'abord qu'un long couloir vide et sale. Dehors, la nuit était en train de tomber. Megumi ferma les yeux et avança d'un pas. La seule source de lumière était la petite lucarne incrustée dans la porte d'entrée, mais celle-ci ne projetait qu'une lumière pâle dont le pinceau allait s'évanouir dans quelques minutes. Megumi pensa alors qu'il lui faudrait rapidement atteindre une pièce avec une fenêtre. Elle progressa avec précaution dans le couloir au mur nu. Les rares meubles qui restaient encore s'étaient écroulés sous le poids des années. Privés de leur forme originelle, ils formaient autant de créatures curieuses qui observaient avec méfiance l'avancée de Megumi. « Ce n'est rien, » songea Megumi. « Seulement des ombres. Il est inutile d'avoir peur. » La fillette découvrit un escalier qui semblait mener à l'étage. Elle posa un pied sur la première marche. À cet instant, un son sourd résonna derrière elle, comme si quelque chose de lourd venait de tomber. Megumi mit la main devant sa bouche pour étouffer un cri de panique. Elle se ressaisit tout en se rassurant ainsi. « Pourquoi pas? La maison est si vieille, mon arrivée a dû faire jouer le plancher. » Mais Megumi n'était guère convaincue par son propre raisonnement. La maison était presque vide, qu'est-ce qui aurait bien pu tomber au fond? Alors qu'elle atteignait la moitié de l'escalier, un nouveau bruit fendit le silence. Cette fois, on aurait dit une bouilloire relâchant sa vapeur, un sifflement aigu, strident, auquel semblait se mêler un râle plus grave. Le son était tellement inattendu, tellement insolite, que Megumi en perdit l'équilibre. Ses genoux heurtèrent le bord d'une marche et ses paumes vinrent s'enfoncer dans la poussière, quelques marches plus haut. Elle laissa échapper un petit cri de douleur et demeura dans cette posture peu confortable. Tout en attendant que la douleur disparaisse, elle se répéta à voix basse. « Je ne dois pas avoir peur, je dois continuer. » Megumi se releva et reprit son ascension. Finalement, elle parvint au premier étage. Le palier baignait dans une lumière blafarde d'un bow window. De là naissait un couloir où deux rangées de trois portes chacune se faisaient face. Megumi hésita. Laquelle prendre? Alors qu'elle était plongée dans ses réflexions, la porte qui était la plus loin d'elle s'ouvrit tout à coup. Megumi se raidit. Elle trembla et frotta ses mains l'une contre l'autre. « Amish a raison, je suis folle d'être venue ici, » fit-elle à haute voix. Il restait un étage. Celui-ci, construit sous les combles, n'abritait que quatre pièces. La première, qui s'offrit à la vue de Megumi, était occupée par un vieux mannequin de couture rapiécé, en équilibre contre un mur. Le jeu des ombres dessinait une bouche et des yeux sur la tête de velours. Des yeux qui semblaient cligner, une bouche qui ricanait en silence. À la fois terrorisée et fascinée, Megumi s'en approcha à pas de loup. Quand elle fut à moins de 2 mètres du mannequin, celui-ci glissa au sol dans un fracas épouvantable. La surprise fut telle que Megumi en tomba sur son postérieur sans même avoir la force de crier. Megumi rassembla ses pensées. Elle n'avait jamais été peureuse, ne craignait pas davantage les souris que les araignées. Quant à ces choses de l'autre monde que l'on imagine quand on est enfant, Megumi avait toujours su les aborder avec décontraction. Alors elle conclut. « Ce sont les vibrations de mes pas. Le mannequin était en équilibre et le plancher bouge beaucoup. J'ai simplement fait tomber le mannequin en m'approchant. C'est normal, il n'y a pas de quoi avoir peur. » Megumi se remit debout et fit cap vers la deuxième pièce. Celle-ci avait probablement servi de bibliothèque. Quelques ouvrages bouffis par l'humidité ornaient encore des étagères. Elle en ouvrit un, éternua, puis se retourna vers la porte en estimant que sa visite, malgré quelques petites frayeurs, était presque décevante. Or, à cet instant, elle eut l'impression qu'une main invisible et glacée lui serrait le cœur. Elle n'était plus seule dans la maison. Quelque chose était là, sur le seuil, devant elle. Et ce quelque chose était si étrange, si inattendu, si terrible, qu'elle mit plusieurs secondes à réaliser. Dans l'encadrement de la porte, là où il n'y aurait dû se trouver que du vide, se tenait un être, vêtu de haillons, en guise de visage, la face creuse d'un squelette qui faisait claquer son horrible mâchoire. Megumi se figea et une foule de pensées lui traversa l'esprit. Puis elle poussa un cri sur place, incapable de bouger ne serait-ce que le petit doigt. L'apparition fit un pas vers elle en tendant un doigt osseux et accusateur. « Va-t'en !» hurla la chose. Megumi, toujours paralysée, ne pouvait guère obtempérer et préféra se cacher le visage. La peur la dévorait, comme un feu qui consume une allumette. Oh, quelle écervelée elle avait été de venir ici toute seule. Les esprits, c'est une affaire sérieuse, et elle avait pris toute cette histoire avec trop de légèreté. Elle songea furtivement à ses parents qui devaient mourir d'inquiétude à quelques pas d'ici, mais une foule d'autres pensées l'assaillaient en même temps. « Onegai Waruza Shinaide, » murmura-t-elle. « Ne me faites pas de mal. » C'était bien la moindre des choses que l'on pouvait souhaiter, mais elle n'obtint aucune réponse et demeura recroquevillée sur elle-même. Et puis, elle sentit monter en elle un drôle de sentiment. Pourquoi cette créature lui voudrait-elle forcément du mal? C'est vrai, c'était un être terrifiant, mais après tout, un fantôme. Ce n'est jamais que l'esprit de quelqu'un qui a vécu parmi les autres hommes. Pourquoi s'en méfier, au fond? Et puis, s'il avait voulu lui faire du mal, il ne perdrait pas tout ce temps. Certes, il lui avait dit de partir, mais elle était rentrée chez lui de manière assez impolie. Avant de faire quoi que ce soit, il convenait de s'excuser pour cette intrusion. Alors, un doigt après l'autre, Megumi dégagea son visage. Le crâne grimaçant, quel crâne ne l'est pas, semblait l'observer. Bien sûr, on ne peut pas lire la moindre expression sur un crâne, mais Megumi aurait juré que celui-ci affichait un air étonné. Prenant son courage à deux mains, elle fit timidement « Que... Kambawa ?» Elle venait de souhaiter « bonsoir » au fantôme. Mais malgré la bizarrerie de la situation, Megumi fut assez lucide pour réaliser que cet être ne devait pas parler un mot de japonais. Elle fit donc une nouvelle tentative en anglais. « Bonsoir ?» Elle n'eut pas de réponse. La silhouette décharnée oscillait curieusement devant elle, comme si elle était pendue par les épaules à un fil invisible. « Je vous prie de m'excuser d'être rentrée sans me présenter, » insista Megumi. Tout à coup, la mâchoire du crâne s'agita et une voix tremblante s'en échappa. Ce n'était pas une voix humaine, on aurait dit que c'était un instrument de musique qui essayait de s'exprimer. « Bonsoir, » fit la voix, le tout accompagné d'un grincement de chicot. « Vous êtes le fantôme ?» interrogea Megumi. Il y eut un long silence, puis « Oui, je ne te fais donc pas peur ?» Megumi observa l'étrange apparition des pieds, du moins ce qu'il en restait, à la tête. « Si, vous êtes affreux, » conclut Megumi, « mais je n'ai pas peur que vous me fassiez du mal. » À ces mots, la silhouette s'affaissa dans un cliquetis effrayant et le crâne alla rouler aux pieds de Megumi. Elle se frotta les yeux, était-elle en train de rêver toute cette scène ? Elle avança d'un pas et à cet instant, il se forma devant ses yeux un tourbillon de poussière et de particules en suspension qui finirent par dessiner une silhouette humaine. À l'intérieur de celle-ci brillait une lumière orangée, intense et pure, qui vacillait à la manière d'une flamme de bougie. L'être ainsi formé n'était fait que de poussière, mais aussi poussière. « Je n'ai plus besoin de ce déguisement, si j'ai bien compris, » fit la créature d'une voix plus claire. « C'est toujours vous ?» demanda Megumi. « C'est toujours moi, mademoiselle. C'est même davantage moi qu'il y a une minute. » L'être qui flottait au-dessus du sol passa à travers Megumi comme si elle n'existait pas et vint finir sa course devant une fenêtre. « En quoi vous êtes fait ?» L'apparition, l'espace de quelques secondes. « En rien, je suis un esprit. Je n'ai pas de poids, pas de forme. Je ne peux que déplacer les choses. Ce squelette que tu as vu, et qui n'est même pas le mien, quelle ironie, ou ce nuage de poussière que j'essaie de faire ressembler à mon apparence d'autrefois, quand j'étais vivant. » Megumi contempla le fantôme. Son visage était changeant, sans cesse en mouvement, mais parfois Megumi croyait distinguer celui d'un jeune homme. « Vous faites comment pour parler, au fait, si vous n'avez pas de bouche pour de vrai ? Je t'ai dit que je peux déplacer les choses, et en conséquence, je peux faire vibrer l'air, je peux faire n'importe quel bruit en réalité. » Megumi en fut impressionné. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur, monsieur le fantôme ?
Horatio, répondit le fantôme.
Pardon ? Appelle-moi Horatio. C'était mon nom. Horatio Hearn. Mais je n'ai pas répondu à ta question. Je fais peur aux gens parce que c'est ce que l'on attend de moi, n'est-ce pas ? On veut que je sois malfaisant, terrifiant.
Megumi, d'abord pensive, déclara.
Peut-être ici, Horatio-san, mais dans mon pays... Enfin, pas toujours.
Horatio-san ? Pourquoi san ?
Je suis japonaise et dans mon pays, san est une marque de respect.
Tu viens du Japon ?
Tu es bien loin de chez toi.
C'est vrai, mais un de mes ancêtres a vécu dans cette maison. Nous sommes peut-être parents.
Il était difficile de déterminer ce qu'en pensait le fantôme. Il resta un petit moment à flotter près de la fenêtre, et ce fut Megumi qui mit fin au silence.
« Au fait, vous parlez, mais comment vous pouvez me voir ?
Vous m'entendez en tous les cas. »«
Je te vois, oui. Les fantômes, eux aussi, perçoivent la lumière, mais pas comme toi. Pas à travers des yeux. Nous voyons les choses autrement. Nous en voyons, en un sens, plus que les vivants. »
Il attendit avant d'ajouter. « Tu sais que je n'avais pas parlé à qui que ce soit depuis sans doute un bon siècle. »«
Oh oui, au moins. Tu es la première personne qui ne fuit pas en courant. J'admire ton courage. »
Megumi rougit. Le fantôme flotta vers elle avant de dire.
« Passons au salon, suis-moi. Tu seras mieux installée. »
Elle le suivit jusqu'à une grande pièce qui s'éclaira à leur arrivée, où subsistait ce qui avait peut-être été un sofa. Des ressorts avaient crevé la toile, mais il était encore possible de s'y asseoir en se tenant tout près de l'accoudoir. Megumi ne se fit pas prier.
« Vous n'êtes pas mon ancêtre qui est allé habiter le Japon, » commença Megumi. « Sinon, vous ne seriez pas ici, n'est-ce pas ?»«
Non, » acquiesça le fantôme. « Je suis mort en 1855 et je n'ai jamais vu le Japon. »«
Oh !» fit Megumi, un peu déçu. « L'ancêtre dont je vous parle s'appelait Patrick. »
Le fantôme mit quelques secondes avant de répondre.
« Patrick, tu dis ?
C'est le nom de mon fils. »«
Vraiment ? Et il est allé au Japon, lui, n'est-ce pas ?»«
Je l'ignore. Je suis mort quand il n'avait encore que 5 ans. »«
Oh, je suis désolée, Horatio-san. Après ma mort, ma femme et mon fils ne sont pas restés très longtemps ici. Ils ont dû vendre beaucoup de nos biens et déménager rapidement après mes obsèques. Je n'ai bien sûr pas pu les suivre. »
Megumi observa le silence. Horatio ajouta. « On pense que les fantômes n'ont pas de sentiments, mais c'est faux. Nous éprouvons la même peine que les vivants, au centuple, car finalement, nous ne sommes que ça, des émotions privées de corps. »
Megumi ne sut quoi répondre. La peur était bien loin, et les propos du fantôme lui inspiraient bien davantage de tristesse.
« Je suis sûre que Patrick aurait aimé que vous lui fassiez un signe, » affirma-t-elle, « même en tant que fantôme.
Je ne pense pas, les vivants préfèrent rester entre eux. »
Un petit sourire traversa le visage transparent d'Horatio.
« Même si cela semble être différent pour toi, Megumi. »
Le fantôme observa la fillette en silence. « En quelle année sommes-nous déjà » demanda-t-il.
« 1985, Horatio-san. »«
130 ans. Je suis mort il y a 130 ans. Tu dois être mon arrière-arrière.
Oh, je peux vous dire, Patrick. »
« Votre fils était mon arrière-arrière-arrière-grand-père.
Vous, vous êtes mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père.
Ouh, c'est long à dire !»«
Eh bien, » fit le fantôme, « j'ai certainement de la chance. Il est rare de connaître ses arrière-petits-enfants.
Alors les arrière-arrière-arrière-arrière... »
Il tendit sa main vers le visage de Megumi, qui eut un petit mouvement de recul. Elle s'en voulut, mais le fantôme ne sembla pas en faire grand cas.
« Tu es mignonne comme tout, » dit-il. « Je suis fière d'avoir une si jolie arrière... Enfin, tu sais. »
Megumi rougit avant de dire timidement.
« Évidemment, je ne pense pas que vous m'auriez imaginé... japonaise. »«
Je n'imaginais rien du tout. Il est vrai que de mon vivant, on n'allait pas facilement au Japon. C'était un pays très fermé. Les choses ont forcément changé depuis. »
Elle réfléchit. « Vous ne savez pas du tout ce qu'il s'est passé depuis votre mort, Horatio-san ?»
Le fantôme alla se poser à l'autre bout du divan. Un être vivant n'aurait pas trouvé cela très confortable, mais pour un fantôme, bien entendu, cela ne posait pas de problème.
« Il y a eu des habitants ici pendant longtemps, j'ai donc pu me tenir un peu au courant. Mais savoir, ce n'est pas voir. »
« Bien sûr, » acquiesça Megumi, «
Mais dites-moi, vous dites que votre famille est partie très vite, mais vous ne les avez pas chassés, n'est-ce pas? Vous ne leur avez pas fait peur, même involontairement. Le fantôme ricana. Megumi avait beau être en confiance, elle en trembla. Un fantôme qui ricane demeure terrifiant, amical ou pas. Je suis restée tapie dans l'ombre durant les quelques années où ma propre famille a continué à habiter ici. Après quoi, j'ai commencé à jouer mon rôle de fantôme, à faire peur aux nouveaux arrivants. Il sembla à Megumi que la voix du fantôme s'était fêlée. Vous êtes mort jeune, Horatio-san? J'avais à peine 30 ans. Ma femme était plus jeune que moi encore. À nouveau, Megumi sentit dans ses paroles une insondable mélancolie. Elle baissa la tête et observa un instant de silence, comme pour rendre hommage à ses ancêtres frappés par la tragédie. Puis, elle reprit. Je voudrais vous poser une question, Horatio-san. Je t'écoute, fit le fantôme. Vous ne pouvez pas sortir de cette maison? Non, mon âme est enfermée ici parce que je suis mort entre ces murs. Le pire, c'est que je ne suis même pas enterré sous la maison, mais à la campagne, dans un petit village où je suis né. Megumi regarda tout autour d'elle. Vous êtes attaché à ces murs, alors? À la terre sur laquelle ces murs sont bâtis, plutôt. Je crois que c'est comme cela que ça marche. Mais je n'en sais rien. On ne nous explique rien quand vous devenez un fantôme. Il faut comprendre tout seul. Vous êtes attaché à la terre d'ici, de cette maison? Répéta Megumi. Mais vous aimeriez pouvoir sortir, n'est-ce pas? Évidemment. Mais qu'est-ce qu'un fantôme peut bien faire hors de chez lui? Il faudrait essayer pour le savoir. Megumi s'apprêtait à surenchérir quand elle réalisa qu'il était probablement déjà bien tard. Je dois m'en aller, Horatio-san, ou mes parents vont être fous d'inquiétude et de rage aussi. Mais ça m'ennuie de vous laisser. Je suis seule depuis plus de 100 ans, ça ne changera rien pour moi. Oui, mais tout de même, je voudrais tellement vous aider. Je vais y réfléchir. Le fantôme tourbillonna dans les airs avant de déclarer. Tu es très gentille, Megumi, mais tout cela ne regarde pas une petite fille comme toi. Ah, ça ne m'embête pas du tout, au contraire, mais je dois vraiment partir. Je trouverai la porte toute seule, ne vous dérangez pas pour moi. Megumi courut en trombe jusqu'à la porte d'entrée, ne craignant plus rien des murs décatis et lugubres. Après tout, ce qu'il y avait de plus terrifiant dans cette maison, elle en avait fait un ami. Galvanisée par sa rencontre, elle passa sans encombre à travers les barreaux et se retrouva dans. Fit une voix familière. C'était Amish, vêtue de son plus beau pyjama. Amish, chuchota Megumi, tu ne dors pas? Je m'inquiétais un peu, tout s'est bien passé. Oui. Ouf, bon, tu me raconteras demain, je retourne me coucher. Oh, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment? Vraiment, à demain, Amish. Bonne nuit, Megumi. La fillette eut beaucoup de chance. Cette nuit-là, ses parents s'étaient écroulés de fatigue sur leur lit et n'avaient donc même pas remarqué que leur fille s'était éclipsée depuis une bonne heure. Megumi fut soulagée d'entendre les ronflements et regagna sa chambre sur la pointe des pieds. Elle ne tarda pas, à son tour, à s'abandonner à un sommeil peuplé d'esprits et de couloirs obscurs.